Le journal Julie Paco, bonjour Julie.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Le 15 de France cartonne. Les rugbymen ont largement dominé les Écossais hier soir en match de préparation. 32 à 3, 5 essais inscrits. De bon augure pour le mondial qui débute dans un mois. Matteo Salvini recule en Italie. Il laisse débarquer 27 migrants mineurs du navire humanitaire Open Arms. Commémoration à Bormes-les-Mimosas. Emmanuel Macron a rendu hommage à l'héroïsme des soldats 75 ans après le débarquement de Provence. Autre commémoration dans un tout autre esprit, Woodstock à 50 ans et certains se sont mis en tête de rejouer le festival en Auvergne, oui. Et puis la météo, 12 départements placés en vigilance orange, de la Loire jusqu'en Alsace. Chute de grêle et fortes rafales de vent sont attendues, nous dira Jean-Pierre Hameau à la fin du journal.
Et puis les deux invités de la matinale, 7h50, Saskia Cousin, anthropologue, spécialiste du tourisme. 8h20, Le Grand Entretien, ce matin un plongeur, naturaliste, biologiste marin, photographe. Il s'agit de Laurent Balesta.
France Inter.
Le festival d'essai du 15 de France face à l'Écosse hier soir.
Les rugbymen en ont inscrit 5. Score final 32 à 3. Les Bleus ont réellement brillé pour leur premier match de préparation à 5 semaines du Mondial. Signe que les 6 semaines d'entraînement n'ont pas été vaines. Dominique Poulain a suivi cette rencontre à Nice.
Il était très attendu et n'a pas manqué ses débuts. Le 15 de France a montré un visage séduisant. Affûtés, actifs et mobiles, les Bleus ont su imposer leur rythme face à des Écossais en souffrance, marquer 5 essais pour s'imposer sur un score sans appel, d'où la satisfaction du centre Wesley Fofana.
Je pense qu'on a vu quelques beaux mouvements, beaucoup d'envie surtout, et tout le monde s'est envoyé pour l'autre, quoi. Faut qu'on puisse aussi se satisfaire des victoires que l'on a, parce que on n'en a pas eu énormément ces derniers temps, donc on est tous très heureux de ça, mais restez vigilants.
En place aussi bien offensivement que défensivement, l'équipe de France a pu mettre en place quelques systèmes de jeu travaillés pendant la préparation. Le capitaine Jefferson Poirot préfère pourtant garder les pieds sur terre.
On a essayé de maîtriser notre rugby, et on l'a maîtrisé en partie ce soir, il y a encore des choses à améliorer, donc voilà, soyons humbles surtout, et puis derrière, bossons. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, elle n'a pas commencé, on n'a rien fait, donc on est obligé de rester réaliste, quoi.
À 5 semaines de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est rassurée. Elle doit maintenant confirmer samedi prochain à Murrayfield. Nice, Dominique Poulain, France Inter.
À contre-cœur, Matteo Salvini laisse débarquer les 27 mineurs non accompagnés de l'Open Arms, le bateau humanitaire bloqué au large de Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur a fini par écouter le président du Conseil, Giuseppe Conte, et par lâcher un peu de lest sur sa politique des ports fermés. Il faut dire que cette énième confrontation entre un bateau humanitaire et le ministre italien de l'Intérieur intervient en pleine crise politique. Et pour Matteo Salvini, tous les coups sont permis. Antonino Gallofaro.
Le geste de Matteo Salvini, mais seulement pour les mineurs non accompagnés. Et un geste à contre-cœur. Dans la soirée déjà, le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite toujours au pouvoir, a affirmé sur un ton sarcastique que sur cette trentaine de personnes, 8 se sont déclarés majeurs. Le ministre de l'Intérieur a cédé après les pressions répétées du Premier ministre. Giuseppe Conte, par deux fois, lui a intimé de laisser descendre les mineurs. La tension entre les deux hommes s'est aussi étalée sur la place publique quand, il y a 3 jours, le chef du gouvernement a indirectement demandé à son ministre de cesser de faire campagne électorale sur le dos des migrants. En accédant à la requête de son chef, Matteo Salvini a voulu démontrer sa collaboration loyale, comme il l'a affirmé en reprenant les mots de Giuseppe Conte, mais il n'a pas arrêté pour autant sa campagne électorale. Pour lui, ces mineurs sont des mineurs imaginaires, comme le sont les malades imaginaires sur le navire. Il sous-entend que les personnes sur l'Open Arms se portent bien. La situation à bord est insoutenable, répond pourtant l'ONG espagnole. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Et parallèlement, l'Ocean Viking, le bateau de SOS Méditerranée et de Médecins Sans Frontières, n'a toujours trouvé aucune solution pour faire débarquer les 356 migrants à son bord. En Italie, des renforts sont attendus pour retrouver Simon Gauthier, ce jeune Français de 27 ans disparu il y a 8 jours dans la région de Policastro, en compagnie. Les recherches ont repris ce matin à 6h et de nouvelles équipes de secours alpins doivent arriver. Doctorant en histoire de l'art à Rome, Simon Gauthier avait appelé les secours le jour de sa disparition. Et selon l'enregistrement diffusé par plusieurs médias italiens, il déclarait être tombé d'une falaise et s'être cassé les deux jambes. Au moins 63 morts lors d'un attentat en Afghanistan. Cela s'est passé hier soir. 63 morts et 82 blessés lors d'une fête de mariage à Kaboul. Les porte-paroles talibans nient l'implication du groupe insurgé dans ce nouveau massacre. Ils espèrent un rassemblement massif et pacifique. Les militants pro-démocratie se donnent une nouvelle fois rendez-vous aujourd'hui à Hong Kong. dans un grand parc au cœur de l'île. Le rassemblement y est autorisé, mais la police interdit aux manifestants de défiler dans les rues. Hier, ils étaient plusieurs milliers à marcher sous une pluie torrentielle, non loin d'un autre rassemblement, celui des partisans pro-gouvernement qui réclament le retour à l'ordre.
7h05, la suite du journal Julie Paco. Bain de foule pour lui avant de la rentrée.
Mais Emmanuel Macron s'est offert un moment de convivialité à Bormes-les-Mimosas. Hier, le chef de l'État y célébrait les 75 ans de la libération de la petite ville où se trouve le fort de Brégançon dans le Var. Une cérémonie au cours de laquelle il a appelé les Français à se réconcilier et à faire vivre l'esprit de la résistance. Le chef de l'État qui en a profité pour s'octroyer de nombreuses accolades accompagnées de la Première Dame avant une rentrée chargée. Manon Clavry.
Sur la place Saint-François, des centaines de personnes attendent Emmanuel Macron et sa femme. À leur arrivée, vers 20h15, après la cérémonie de commémoration, le couple pose d'abord pour des photos.
Monsieur le maire, Brigitte. Ah oui, Brigitte.
Tout le monde semble ravi de rencontrer le président et sa femme, à l'image de Michel qui tente dans la cohue de saluer la première dame.
Parce que je l'aime beaucoup, elle est très jolie, elle est très intelligente, elle fait des bonnes choses. Une femme formidable, c'est un couple formidable.
Pour Emmanuel Macron, cette soirée à Bormes-les-Mimosas ressemble à un dernier moment de détente avant une rentrée mouvementée. Des réformes sensibles sont à l'agenda, celle des retraites par exemple. Et le président n'échappe pas à quelques questions sur le sujet. Alors il tente de rassurer Astrid, enseignante de 45 ans, inquiète pour sa retraite.
Il faut revaloriser des choses parce qu'au fond, aujourd'hui, on est mal payé quand on est enseignant. Mais donc, il faut aussi qu'on fasse évoluer progressivement la mission. Bien il y a sûr. Toute une réflexion.
Ah bah ça c'est clair.
Le chef de l'État doit recevoir dès lundi le président russe Vladimir Poutine à Brégançon avant le conseil des ministres de rentrée mercredi et le sommet du G7 le week-end prochain à Biarritz.
Manon Clavry avec Laurent Lucas à Bormes-les-Mimosas. Et justement dans le Var, qui se cache derrière les disparitions des cloches dans les villages? La question taraude les gendarmes de Brignoles. En un mois, celles de 4 chapelles dans ce secteur ont été dérobées. Dernier village touché, Notre-Dame du Revest. La cloche de la chapelle classée est portée disparue depuis quelques jours. La mairie a porté plainte et la population sur place est sidérée. Marc Poitevin.
Dès qu'il a appris la nouvelle, Jean-Philippe s'est rendu sur place. Cette chapelle et sa cloche en bronze font partie de son histoire.
Moi, je me suis marié dans cette église. Ce jour-là, la cloche avait sonné.
Un moment aussi gravé dans la mémoire de son épouse, Pascal.
Elle faisait un petit bruit plutôt aigu.
Maintenant, elle fixe le clocher bien vide sans sa cloche.
Ça fait un peu mal au cœur, tout simplement.
Pascal n'a aucune idée de ce que la cloche a pu devenir, contrairement à Jérôme.
À mon avis, ils l'ont fait fondre. Et ils l'ont vendu pour le poids. Moi, est-ce que ça a une valeur pour certaines personnes?
C'est la piste la plus crédible pour Christian Guinamo, adjoint à la maire d'Esparron de Palière.
On pourrait songer à des amateurs d'art qui récupèrent ce type d'objet, puisque ça avait été le cas donc, pour les portes de la chapelle précédemment volées et pour la statue qui avait été volée également.
L'adjoint pense à une clientèle internationale prête à mettre le prix pour récupérer cette petite cloche.
Entre 3 et 5 000 euros, je dirais, à valeur de cloche. Après, bon, la valeur patrimoniale, c'est difficilement calculable, je pense.
Même si les gendarmes sont sur le coup, l'adjoint ne pense pas que la cloche sera retrouvée à moins d'un miracle. Lui-même le dit, ce serait un cadeau du ciel.
L'enquête de Marc Potvin pour France Inter.
Et si on refaisait Woodstock en Auvergne?
Le festival s'est déroulé il y a très exactement 50 ans à Bethel dans l'état de New York. Un concert devait à nouveau y être organisé mais il a été annulé. Au grand dam d'un petit groupe d'Auvergnats qui a grandi dans la culture hippie. Ils ont donc décidé de faire revivre l'événement au beau milieu de l'Allier, chez eux, dans la grange de Corgenay.
Tout a commencé en juin lorsque Denis Tanton discute avec ses amis.
Sur Moulin, on se connaît un petit peu tous, les musiciens de cette génération.
Ils réfléchissent à aller à Woodstock célébrer l'anniversaire, mais finalement ils se disent que c'est peut-être mieux de le faire ici, dans le bocage bourbonnais. Les contacts sont pris avec l'association La Jumbertée. Une ferme comme à Bethel en août 69 leur est mise à disposition le 14 septembre. Ils appellent donc leurs copains.
Ce sont tous des groupes du département, tous des amateurs qui viennent gracieusement, juste pour le plaisir. Et tous se sont engagés, c'était un petit peu l'idée de départ, à présenter au moins 2 morceaux qui ont été joués en 69 sur la scène de Woodstock.
Denis jouera lui aussi.
J'adore le passage de Crosby, Stills, Nash & Young. D'ailleurs, c'est assez amusant puisque sur le film original, on voit pas Neil Young et pendant très longtemps, j'ai cru qu'il n'y était pas. I went to heaven and I stood...
Les organisateurs invitent même à venir costumés pour se sentir comme en 1969, les problèmes d'organisation en moins.
Les gens avaient abandonné les voitures sur les routes d'accès pour pouvoir y aller à pied, donc c'est un embouteillage monstre. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Hein.
Woodstock en Bourbonnais, c'est à la Grange de Corgenay à Neuvy, samedi 14 septembre à partir de 15h.
Le reportage de Mickaël Chaou de France Bleu Pays d'Auvergne.
Merci Julie Paco.